Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce lundi 3 décembre, ensemble avec vous pendant deux heures consacrées aux gilets jaunes, deux heures d'émission spéciale sur Sud Radio ce matin. On va parler évidemment de l'issue de cette crise. Y a-t-il une issue possible? Ce sera à partir de 11h. La crise politique pour Emmanuel Macron. Y aura-t-il un acte 4 samedi? En cause, la gestion également des forces de police pendant les manifestations, la manifestation de samedi. Et puis entre 10h et 11h, les médias, l'émission médias avec Gilles Gansman et Rémi Pernelet.
Bonjour.
Sera consacré aux médias et à leur traitement de cette crise des gilets jaunes. Vous êtes extrêmement nombreux devant vos téléviseurs, que ce soit sur les chaînes d'info ou les JT. On va en parler. On aura Yannick Letranchant, le patron de l'info du groupe France Télévisions. On aura Arlette Chabot avec nous également. Et puis une correspondante britannique à Paris qui nous expliquera comment la presse étrangère a réagi à ces images. Les unes sont assez saisissantes un petit peu partout dans le monde. Et on commence avec un point audience avec vous, Rémi.
Oui, alors Valérie.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias, découvrons les audiences.
Alors, c'est le jingle habituel, mais c'est des audiences un petit peu particulières, puisque ce sont les audiences incroyables.
Oui, alors c'est pas seulement les audiences d'ailleurs, parce que vous savez, les événements de samedi ont été largement suivis et commentés dans les médias, sur les chaînes d'infos. Les titres étaient très explicites en fin d'après-midi. Des violences graves dans Paris sur BFM TV. L'un des reporters en direct des Champs-Élysées, Pascal Sauce, a répété d'ailleurs à plusieurs reprises « Ce sont des scènes que je n'avais jamais vues à Paris ». Sur CNews, le titre indiquait « Journée de violence, le scénario du pire ». Et sur LCI, Arlette Chabot commentait les images et les reportages avec le titre « Scène de chaos à Paris ». De nombreux témoins et personnalités sont succédés sur les différents plateaux. Alors chaque chaîne avait évidemment recruté son ou ses représentants des Gilets jaunes. Jean-François Barnaba, par exemple, de l'Indre sur BFM TV, on l'a vu samedi. Maxime Nicole sur CNews. LCI recueillait des avis sur le terrain, mais a fait intervenir des politiques, Marine Le Pen et Adrien Quatennens notamment. Le ministre de l'Intérieur est intervenu samedi aux 20h de TF1 et sur BFM TV à 21h. Bref, le suivi des événements, c'était sur les chaînes d'info qu'il se faisait. Je dirais un peu plus de mise en perspective, selon moi, sur LCI, un peu de catastrophisme sur BFM TV, mais ça, c'est mon regard.
Un peu partout aussi, parce que scène de chaos, c'était pas non plus d'un pauvre. Enfin, c'était aussi.
Oui, c'est vrai que c'était aussi sur toutes les chaînes. Et hier, dimanche, toutes les chaînes d'info sont revenues en boucle sur les événements avec un numéro spécial de 7 à 8 sur TF1, une émission spéciale en prime sur France 2, présentée par Léa Salamé et Thomas Sauté. Côté audience, donc, de très gros score pour les chaînes d'info, 9,6% de part de marché moyenne.
9,6, donc 10
près de 10%. Près de 10% pour BFM TV, troisième chaîne nationale samedi après-midi et soir. Pour la tranche la plus suivie entre 17h et 19h40, c'est BFM TV qui était en tête avec 1 784 000 téléspectateurs.
Incroyable.
Et 12,5% de part de marché. C'était la deuxième chaîne nationale devant CNews, en termes de chaîne d'info, avec 770 000 téléspectateurs et 5,3% de part de marché. LCI, 647 000 téléspectateurs et France Info TV, 308 000 téléspectateurs. Au total, c'était plus de 6 millions de téléspectateurs qui suivaient les chaînes d'info à cette heure-là.
Ouais, alors, c'est des chiffres, c'est quand même du jamais vu. On va en reparler avec Yannick Letranchant, c'est du jamais vu.
Exactement, j'aurais signalé aussi l'audience du JT de 20h de TF1 samedi, 6 841 000 téléspectateurs
hier soir,
pour Anne-Claire Coudray. Hier soir, de très gros scores aussi, TF1, 7 698 7 000 téléspectateurs. C'est 400 000 de plus que dimanche dernier, qui était déjà un gros score. Et puis surtout France 2 avec 5 932 000 téléspectateurs. Ça, c'est 1 million de plus que dimanche dernier. Puis encore deux chiffres, l'audience de l'édition spéciale de France 2 hier, près de 3 500 000 téléspectateurs jusqu'à 22h54. Et puis le 7 à 8 spécial Gilets jaunes d'Ariel Rosalmack, 4 739 000 téléspectateurs, c'est 400 000 de plus que le dimanche précédent. Donc, vous voyez, entre les chaînes d'info et les rendez-vous habituels ou les éditions spéciales des chaînes généralistes, ce sont, je pense qu'on peut, atteindre les 10 millions de téléspectateurs qui suivaient l'actualité.
Ça veut dire que les gilets jaunes intéressent beaucoup les Français.
Alors, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors, si vous voulez d'ailleurs réagir, 0826-300-300, nous dire si vous avez été scotché, fasciné. Enfin, moi, j'avoue que c'est mon cas. J'ai allumé la télé samedi matin et j'ai eu du mal à arrêter de regarder. Hein. C'était assez hypnotique. Hein. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez pensé du traitement des chaînes d'infos. Est-ce que les gilets jaunes étaient très représentés? Est-ce que, 0826-300-300. Ces images vous ont-elles choqué? Oui, j'imagine. Gilles, on commence avec un premier extrait.
Alors, j'étais le chercher sur la toile parce qu'il faut dire que Twitter n'a jamais eu autant de taux et de messages que ce week-end. L'audience également de Twitter est assez étonnante puisque, évidemment, on pouvait suivre presque en temps réel ce qui se passait dans les rues de toute la France. Mmh. Et samedi, sur la toile, il y avait aussi les vedettes qui se mobilisaient. Mmh. Et malgré les premières exactions qu'on pouvait voir, Jean-Marie Bigard a posté ce message sur Twitter.
Ça y est, mesdames et messieurs, c'est Jean-Marie Bigard qui vous parle. Je vous fais une déclaration officielle. Je soutiens les gilets jaunes de tout mon cœur. Je soutiens les gilets jaunes pacifiques. Les casseurs, par exemple, les enculés, ben je les encule à mon tour, virtuellement. Hein. Je me mettrai pas de la merde sur la bite pour eux. Un petit détail, les gilets jaunes qui décèlent, comme je l'ai vu, les pavés de la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, je suis désolé, mais je les méprise. Donc, je vous le répète, et ma phrase est claire, je soutiens de tout mon cœur les gilets jaunes pacifiques. Allez, tous ensemble, les gars.
Voilà, donc voilà. C'est du Jean-Marie Bigard.
C'est du Jean-Marie Bigard.
Mais il y a eu, on l'a dit vendredi, beaucoup de soutien d'artistes aux gilets jaunes, effectivement. Paul Naref, on l'a rappelé.
Oui, depuis
vendredi,
Las Vegas.
Absolument.
Et évidemment, le fait que, entre guillemets, les nantis se mobilisent, ça a fait débat samedi sur C8 dans les terriens du samedi de Thierry Ardisson. Mona Cachemire a tapé du poing sur la table. À ce qu'il paraît, c'est les bourgeois qui critiquent et analysent les gilets jaunes. Est-ce normal?
Regardez-nous, il n'y en a pas un autour de cette table qui gagne moins de 2000 euros. Depuis tout à l'heure, on parle de pouvoir d'achat, on parle de ceux qui gagnent le SMIC, de ceux qui gagnent moins. On parle d'eux, sans eux. Eux, ils nous regardent, ceux qui galèrent. Ils sont dans le public. La fracture sociale, elle est là. J'imagine combien de gens, levez la main, le nombre de gens qui galèrent, qui gagnent le SMIC et qui galèrent, qui ont peur de Noël, qui conduisent une heure avant d'y aller. On ne leur donne pas la parole. Il n'y en a pas un qui veut venir, qui veut nous parler de ça. Parce que là, on est entre bourgeois, entre intello, on a fait
Sciences Po. Excusez-moi, madame, on n'est pas tous pareils.
Je suis désolée, là, on compare ça à mai 68, mais c'est la révolution. Oui. C'est la révolution du tiers-État. Oui. C'est la révolution de ceux qui veulent venir
vous
parler
vous trompez,
de ça.
Madame. Alors.
C'était un peu hors sol, les émissions de Thierry Ardisson ce week-end, parce que c'était enregistré samedi, jeudi. Donc, ils étaient complètement déconnectés par rapport aux événements qui se sont passés. Et puis, juste en général et sans transition, je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de paroles très démagos ce week-end
j'ai trouvé ça démagos. Et il ne faut pas opposer une France et une autre France. Et, c'est débile et c'est pas parce que on parle des gilets jaunes que si on est nanti, qu'on va arriver en t-shirt et changer sa façon d'être. Autre extrait assez étonnant parce que la chaîne d'info, vous savez, RT France, qui est la chaîne de Poutine, est-elle
la voix de la Russie.
C'est Russia Today.
Russia Today est-elle aussi en édition spéciale et on n'a pas vu trop d'extrêmes, ils ont été également toute la journée sur les gilets jaunes. Alors, comme c'est RT, évidemment, rien n'est fait comme chez les autres. Et donc, ils ont recueilli l'avis d'un gilet jaune pris au hasard et qui crie au complot. Je vais vous expliquer après qui est les pris au hasard.
J'ai Axel avec moi, un gilet jaune qui est venu manifester aujourd'hui. Alors, la tournure que prend les événements, qu'est-ce que vous en pensez?
Je sais pas ce que c'est la tournure réelle que prend les événements, parce qu'on dit que c'est très différent en province et à Paris. À Paris, en fait, il y a quelques bandes de casseurs. Aussi, j'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous. Donc, en fait, on ne sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers, des manifestants, ne sont pas eux-mêmes des policiers. Donc, en fait, la tournure réelle des événements, on essaye de nous la flouter. Donc,
vous avez vu des policiers déguisés en... vous avez vu ça?
Oui, une bande de types vraiment de voyous, quoi, les types que vous n'aimez pas croiser dans la rue, qui ont remis leur brassard.
Évidemment, la police, elle s'infiltre en civil dans la manifestation pour la maîtriser et la contrôler. Et surtout pas, évidemment, pour...
Et donc, c'était qui
c'est pas la première fois, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Juste une technique policière habituelle.
C'était Axel Roquevans, un militant de la Manif pour tous, tout simplement.
Donc, c'était peut-être pas tout à fait au hasard.
Et connu pour être agresseur de la Nuit debout. Donc ouais. Non, évidemment que ce n'était pas un hasard.
Et non, tout juste ça une chose rappeler... un peu scandaleuse, oui, c'est de dire que les, ouais. ce sont les policiers oui, peut-être sûr, qui cassent les voitures. Donc ça, c'est...
Ouais. Et donc, évidemment, il faut se méfier des fake news. C'était un petit peu ça. C'est pour ça que j'ai sélectionné ce son, parce qu'en fait, il faut vraiment filtrer ce qu'on voit sur la toile.
Il y a eu aussi, et l'AFP a publié ce matin une mise en garde. On voit des images de CRS en train de charger des ados, des jeunes écoliers. C'est une image qui date de 2015, qui n'a strictement rien à voir. Donc, attention, effectivement, aux images et aux informations qui circulent sur la toile.
7 à 8 qui a cartonné, en parlait Rémi avec Harry Roselmack, était sur le terrain pour la première fois. Harry sortait de son studio et il était à la rencontre de Gilets jaunes et de leur détresse. C'était assez émouvant.
Il ne faut pas qu'ils croient qu'on va rentrer chez nous en se disant « bon, on n'aura rien ». Non, on va aller jusqu'au bout des choses, vous voyez. On marque les jours de présence, c'est pas pour rien.
Donc là, on va chez votre maman.
Chez ma maman, oui.
Où vous êtes retourné vivre.
Voilà, depuis le mois d'avril de cette année, parce que j'y arrivais plus financièrement. Voilà.
C'est votre chambre.
C'est ma chambre. Ah, on est passé d'un appartement de 75 mètres carrés à ces chambres-là.
Voilà, c'était dans 7 à 8 hier. Et pour finir, écoutez bien sur BFM un grand coup de colère de Benoît Barret. C'est le secrétaire général du syndicat Alliance. Pour lui, on est arrivé à un point de
police.
Et pour lui, on est arrivé à un point de rupture et c'était vraiment une colère très très forte.
Vous avez l'impression de ne pas être écouté, pas être entendu suffisamment.
Mais pas écouté, pas être entendu, je vous le dis. Tout le monde dit on soutient les policiers, mais qu'on le fasse voir qu'on soutient les policiers. Mince, à la fin, franchement, si on n'arrive pas à avoir une réponse politique de ça, on va encore envoyer samedi des collègues en train de se matraquer la tête, des collègues qui se sont attrapés certains gilets jaunes radicaux qui sont capables de se mettre à 10 ou 15 sur un mec, un collègue, lui enlever le casque et le matraquer. Non, c'est inadmissible, ça, franchement, à la fin, on va quand même pas laisser des flics tous les week-ends se faire insulter, démonter, pour qui, au final? Les seuls qui sont capables de laisser cette démocratie, ce sont les policiers. On est amoureux de notre métier. Quand vous rentrez flic, c'est pour protéger le citoyen. Hier, je voyais à la télé, à Paris, une femme avec sa gamine en train de chialer, en train de pleurer de peur. Mais lorsque vous rentrez policier, c'est pour éviter ce style d'image.
Il y a des policiers qui témoignaient ce matin, des CRS qui racontaient qu'ils avaient rarement vu un tel degré de violence, qu'il y a des vous savez, ces barrières Vauban qui ont été sciées et meulées pour faire des flèches d'acier. Donc il y avait une volonté de tuer. Donc il y a une commission d'enquête parlementaire à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale pour demander des comptes au gouvernement sur ce qui a pu se passer.
Il y avait beaucoup de représentants de syndicats de policiers, de commissaires qui étaient présents sur pas mal de plateaux. Hier soir, par exemple, dans l'émission spéciale de France 2, il y a le représentant du syndicat de policiers qui a eu la parole d'ailleurs un peu en fin de séquence, mais j'ai trouvé que c'était assez pertinent. C'était quand même assez fort.
0826 300 300, si vous voulez réagir à ces images, nous dire comment vous jugez ce traitement qui est fait par les médias de cette manifestation des Gilets jaunes. À tout de suite, on est ensemble sur Sud Radio, on va se retrouver avec Arlette Chabot et puis Yannick Letranchant, le patron de l'info de France Télévisions. À tout de suite.
Sud Radio, édition spéciale. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, édition spéciale ce matin consacrée aux Gilets jaunes entre 10h et 11h. On parle du traitement des médias. Vous êtes très très nombreux devant vos postes de télévision. Rémi vous a donné les chiffres tout à l'heure. C'est du jamais vu. On est en ligne avec Arlette Chabot. Arlette, bonjour.
Bonjour.
On ne vous présente plus, vous êtes journaliste, éditorialiste, on vous retrouve tous les mercredis matins sur Sud Radio. Vous êtes également sur LCI tous les soirs entre 17h et 18h et vous étiez sur LCI avec un pic d'audience d'ailleurs pendant votre tranche samedi. Vous étiez à l'antenne au moment des manifestations, au moment des violences. Comment est-ce qu'on gère ces images qui vous arrivent avec une violence absolument incroyable ?
Écoutez, je vais vous dire très sincèrement, on est journaliste, on est aussi des citoyens et je vous avouerai que quand j'ai vu moi ces images effectivement de l'Arc de Triomphe et elles étaient là depuis le matin, les graffitis, et puis l'après-midi, ces hommes qui ont réussi à monter en haut de l'Arc de Triomphe, à prendre une chaise, à s'asseoir sur une chaise, à faire des selfies, je dois dire qu'on est un peu sidérés. Alors, une fois que j'ai dit ça, je reconnais peut-être qu'on est, on est extrêmement surpris, voilà, on est choqué comme tout le monde, en tout cas interloqué, et puis après parce qu'on a des gens autour de nous qui sont, qui peuvent nous aider à réfléchir, on essaie de décrypter ces images, les symboles, et puis comprendre ce qui se passe, et essayer de d'anticiper un peu demain la suite, une sortie politique, etc. C'est ça le boulot de journaliste. Mais oui. Honnêtement, j'insiste là-dessus. Personne n'était très heureux de commenter ces images samedi. On n'était pas dans ce que dénoncent certains à tort, c'est-à-dire une espèce de surenchère, de joie dans laquelle se complairaient les journalistes transformés en commentateurs d'un match de violence épouvantable. Franchement, il y a ça d'abord. Et après, il faut essayer de comprendre et d'imaginer, d'aller un peu plus loin et d'imaginer la suite aussi.
Mais est-ce que ces images ne donnent pas de la résonance aux casseurs ? Est-ce qu'ils ne sont pas contents de se voir à la télé et de voir qu'on parle d'eux ? Est-ce que ça ne met pas de l'huile sur le feu ?
Écoutez, franchement, ça c'est un vieux débat qu'on se pose à chaque fois qu'il y a ce genre d'incident. On n'a pas inventé les gilets jaunes, on n'a pas inventé le mouvement. Moi, je vais vous dire, j'ai découvert un jour qu'une dame dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelait Jacqueline Moreau, avait fait une vidéo et qu'il y avait 5 millions de Français qui l'avaient regardée. Et à l'époque, on s'interrogeait sur, mais est-ce que c'est vraiment un mouvement ? Que va-t-il donner ? Va-t-il mobiliser ? Et il y avait une manifestation qui était prévue. Donc, je reviens à votre question. Franchement, c'est tellement incroyable. Vous avez bien vu toutes les questions qui se posent derrière, de voir ces scènes. Derrière, on s'interroge évidemment sur le maintien de l'ordre, sur les décisions, les choix du gouvernement, la responsabilité des gilets jaunes. Maintenant, dire que on donne une caisse de résonance à ces mouvements, forcément, mais à tout mouvement, comme les réseaux sociaux aujourd'hui, les chaînes d'infos. Après, il y a un traitement, évidemment, qui doit être non pas dans le spectaculaire à tout prix, mais qui doit être encore une fois au-delà du choc qu'on peut à titre personnel recevoir, sentir, c'est d'essayer de comprendre et encore une fois d'imaginer un peu ce qu'on pourrait faire demain, parce que je crois que tout le monde est aussi très inquiet devant cette situation.
Ouais. Comment vous gérez comment est-ce que vous gérez les gilets jaunes ? Enfin, quand je dis gérer, le mot est peut-être pas très bien choisi, mais on entend beaucoup de gens sur les plateaux qui viennent sur les plateaux de télévision avec parfois des argumentaires un peu compliqués. Vous, journaliste, vous êtes dans une configuration qui est assez différente de ce que des gens que vous recevez d'habitude.
Oui, ben il y a à la fois de l'émotion chez ces gens, il y a de la colère, il y a, comme vous le dites, des expressions complexes, c'est-à-dire qui parfois ils expriment des revendications qui sont invraisemblables ou excessives, et c'est à nous de leur dire est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous demandez, des conséquences que cette demande ou cet appel a. Je veux dire, quand la première fois qu'on entend quelqu'un qui vous dit sur un barrage, sur un blocage, je veux que Macron s'en aille. En direct, lui dites, voilà, donc il faut reprendre derrière, évidemment, et dire, attention, qu'est-ce que vous dites ? Vous demandez la démission, on est dans une démocratie, quand les gens disent, on veut revoter, on dit aux gens, évidemment, des choses simples, on a voté il n'y a pas si longtemps, donc est-ce que, de les remettre un petit peu, effectivement, dans une cohérence, et puis en même temps, la colère, on l'a déjà, gérée, pour reprendre ce mot horrible, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, et c'était encore plus difficile quand il y avait des choses qui étaient très irrationnelles aussi, quand par exemple il y avait de la casse en banlieue et des demandes qui étaient aussi parfois extrêmement excessives. Donc je pense que là il faut d'abord essayer de maintenir le calme, rester calme et essayer de prendre avec eux discuter. Un peu de distance ou de revenir aux réalités.
Et quand on assiste à des scènes de violence comme on en voit beaucoup, est-ce que on met ça en parallèle avec la colère des gilets jaunes ? Est-ce qu'on se retient dans les commentaires ? Est-ce que on est tenté de commander, de condamner ? Est-ce qu'on devrait condamner plus ? La question en tant que journaliste, je vous pose la question parce que c'est une question que moi je me posais devant l'écran.
Oui, on se demande, franchement, en dehors de dire qu'on est extrêmement choqué, parce que moi, encore une fois, l'Arc de Triomphe, ça m'a vraiment évidemment bouleversé, comme tous ceux qui étaient en plateau, parce que c'est un symbole pour tout le monde de plein de choses, de la République, et puis on avait tous, pour la plupart, commenté des images 3 semaines auparavant des chefs d'État emportés un peu par l'émotion de la mémoire des poilus et de la fin de la guerre de 14. Donc voilà, il y a tout ça qui se mêle. Bon, après, on est journaliste, donc on a un devoir de, encore une fois, prendre des distances, d'essayer de dire ce qui se passe, d'essayer de dire qui et de comprendre qui sont ces gens. Après, il y a eu d'autres violences dans Paris, quand vous annoncez que les galeries Lafayette et le Printemps sont évacuées. Mais vous vous demandez dans quel monde on est aujourd'hui. C'est assez effrayant, mais bon, on essaie encore une fois après de nous-mêmes, je vais dire, de respirer un peu et de se dire, on essaie encore une fois de savoir comment les choses se passent, pourquoi on en arrive là, pourquoi les policiers ont laissé rentrer ou n'ont pas pu empêcher en tout cas des gens de rentrer dans ce musée de l'Arc de Triomphe, pourquoi on n'arrive pas à bloquer des gens qui cassent des magasins. Voilà, on essaie de comprendre après, mais franchement la violence, je crois que elle est forcément condamnable pour tout le monde parce que parce qu'elle les gilets jaunes, j'allais dire en région, quand ils regardaient ces images, ils disaient à quel point ils étaient effondrés, même s'ils pouvaient comprendre. Je crois qu'on ne peut pas s'en satisfaire. Là, on serait vraiment complaisant si on disait « Ah, c'est formidable, vous avez vu, quelle mobilisation !» On n'est pas dingue possible, non plus, quoi. Hein.
Merci beaucoup, Arlette Chabot. Merci, voilà. On vous retrouve donc tous les soirs, 17-18h sur LCI, et puis le mercredi matin, en débat sur Sud Radio. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition spéciale sur Sud Radio. Et on aura Yannick Letranchant avec nous, Christine Bouillot, notre correspondante à Toulouse, et puis également Brigitte Hadès, qui est une correspondante britannique anglaise à Paris. À tout de suite.
Sud Radio, édition spéciale. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Édition spéciale ce matin sur Sud Radio, consacrée aux gilets jaunes avec Rémi Pernelet, Gilles Gansman. Entre 10h et 11h, 11h midi, vos appels, le débat avec les éditorialistes. Et on est en ligne avec Yannick Letranchant. Bonjour Yannick Letranchant.
Bonjour Valérie.
Vous êtes directeur exécutif de l'information de France Télévisions. C'est vous qui gérez l'information du groupe France Télévisions. Hier soir, une émission spéciale à 20h30 animée par Léa Salamé et Thomas Soto, qui a rassemblé 3,5 millions de personnes. Ce matin, votre homologue de TF1, Thierry Tuilier, dit « Je n'ai jamais vu un tel phénomène d'audience » dans une interview dans Le Figaro. Est-ce que vous confirmez que vous êtes aussi surpris de ce phénomène des téléspectateurs qui sont devant leur poste de télévision ?
Oui, c'est vrai, et c'est vrai que hier soir, ça a été extrêmement notable. Alors, on n'a pas fait cette émission-là pour l'audience. Hein. Oui. Quand on décide hier matin de bousculer les programmes le soir, c'est parce que on voit qu'il s'est passé des choses une fois de plus donc la veille et qu'on veut réagir. Et ce qu'on a voulu hier, nous, c'est, si je puis dire, déshystériser un petit peu le débat et puis la couverture pour essayer de donner des clés de compréhension. On veut savoir, on veut comprendre. Et le fait qu'effectivement cette émission ait bien marché, parce que, et vous l'avez rappelé, on est dimanche soir, c'est plutôt la soirée consacrée au film dans le PAF, on fait une émission effectivement en prime time, qui est très ambitieuse, du débat, on n'est pas spécialement revenu sur les violences qu'on voulait, on voulait comprendre, et puis surtout, notre prisme, c'était comment on sort de cette crise.
Oui. Rémi Pernelet.
Comment vous avez, pour rentrer un peu dans le détail de l'émission, il y avait des gilets jaunes, il y en a eu deux vagues, si j'ose dire. Oui. Comment vous les avez sélectionnés? C'est ceux qui se sont exprimés dans les médias? Ils avaient des positions politiques ou des positions personnelles? Comment est-ce que vous les avez choisis?
On a choisi des personnes qui déjà ont accepté de venir, qui étaient d'horizons aussi divers, et ça c'est important.
Il y en a qui ont refusé.
J'imagine que certains ont refusé, mais ce qui était important aussi, c'est qu'on voulait avoir notamment un ou deux signataires de l'appel qui avait été lancé dans le journal du dimanche hier matin et qui tendaient la main, parce que on s'est rendu compte aussi sur le plateau, parce que vous avez vu qu'ils n'étaient pas du tout tous d'accord donc entre eux, d'où le problème effectivement de l'exécutif, d'où le problème du gouvernement, de trouver des interlocuteurs qui, effectivement, hier soir, on l'a vu sur notre plateau, ne sont pas du tout d'accord, à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme. Est-ce qu'il faut se rendre à Matignon? Est-ce qu'il faut discuter? Est-ce qu'il faut qu'on soit des interlocuteurs ou pas? Donc c'était extrêmement visible et très audible hier soir, effectivement, sur notre plateau.
Comment vous réagissez quand même, tout de même? Vous dites, les audiences, on n'a pas fait ça pour l'audience. Et évidemment, vous aviez une mission, enfin, c'est bien, France 2, cette mission de service public d'informer, mais il y a quand même un phénomène incroyable quand on regarde les chiffres sur les toutes les chaînes d'infos et les journaux télévisés, tout le monde fait une audience.
Oui, c'est vrai que tous les journaux surperforment, c'est vrai partout, c'est vrai chez nous, sur France 2, sur France 3, c'est vrai au national et en région aussi sur France 3. France Info, la chaîne info est très suivie aussi avec des journées records et puis nos sites aussi sur numérique sont très suivis. Donc il y a, je pense, effectivement une demande à la fois d'information, mais pas seulement est-ce que le rond-point à côté de chez moi va être bloqué. Ouais. Bien sûr qu'à un moment ça peut entrer en ligne de compte, mais au-delà de ça, c'est d'essayer de comprendre le phénomène. Et puis on s'en rend compte aussi, on voit bien aussi avec les sondages, que c'est une sorte aussi de forme de protestation par procuration avec une adhésion des Français qui est très importante. Donc on sent bien qu'il se passe aussi quelque chose. Est-ce que c'est une crise sociale, une crise sociologique, une crise donc économique, et puis on le voit bien, une crise aussi politique, en tout cas qui peut le devenir.
Moi je voulais vous poser une question en fait sur Twitter. Après l'émission, il y a eu une vraie polémique parce que la journaliste qui résumait ce qui était sur la toile a fini en fait son intervention avec 4 tweets qui félicitaient François Ruffin et Emmanuel Todt qui étaient sur le plateau, et les gens trouvaient que les 4 tweets qui félicitaient François Ruffin n'étaient pas vraiment un reflet. Est-ce que c'était une part de façon d'être engagé par France Télévisions?
Ah, pas du tout, on n'a pas à être engagé, donc du tout c'est pas notre rôle, mais c'est vrai que la tonalité de ce qui circulait sur les réseaux sociaux hier était là-dessus, et puis effectivement dans le temps imparti on n'a pas pu forcément élargir plus, mais vous aurez remarqué que on a eu du mal à trouver aussi des invités pour défendre aussi le président de la République, parce que c'est pas facile.
Et je
rends hommage à Gabriel Attal, le secrétaire d'État qui est venu et qui a très bien fait le job. Il y avait aussi Amélie de Montchalin qui était en plateau
Pardon Yannick Letranchant, sont un peu des seconds couteaux, c'est pas des, enfin on voit qu'il y a quand même un problème de la part du gouvernement qui n'envoie personne sur les plateaux de télévision
Oui, c'est vrai. Alors, ils ont très bien fait le job. Ils ont été formidables, et c'était pas facile parce que quand on est face à Mélenchon, quand on est face à des gilets jaunes, il faut être bon, il faut être un peu capé. Et c'est vrai que je regrette que d'autres membres de l'exécutif ou de la majorité présidentielle ne soient pas venus sur le plateau. Je le regrette. Ils ont été invités, ils ont pas forcément souhaité donc venir, ou ils étaient occupés par autre chose. Mais c'est assez intéressant quand même.
Ouais. Vous avez été surpris par les dissensions qui se sont exprimées entre les Gilets jaunes. Moi, j'étais surpris en tant que téléspectateur de voir, par exemple, la femme qui était invitée sur le premier plateau s'est révélée beaucoup plus virulente que prévu. Au début, elle était assez réservée, puis alors c'est monté, et c'était quasiment une militante de la France Insoumise.
Oui, je suis pas sûr que politiquement ce soit une militante de la France Insoumise, mais c'est vrai que moi j'ai été surpris effectivement de l'écart qu'il peut y avoir sur le fond et sur la forme entre différentes mouvances de gilets jaunes, quoi. Et ce qui ressortait hier, et je comprends la difficulté, et je crois que ça mettait en exergue la difficulté qu'a l'exécutif à trouver des interlocuteurs, parce qu'ils sont pas du tout tous sur la même longueur d'onde. Donc comment on négocie, comment on sort d'une crise quand on n'a pas des interlocuteurs un peu d'accord entre eux, quoi, déjà.
Gilles, moi je voudrais savoir si vous avez mis des moyens en place par rapport à vos journalistes. Est-ce qu'ils sont accompagnés d'une sécurité? Qu'est-ce que France Télévisions a mis en place? Est-ce que comment ça se passe en fait pour eux sur le terrain? Comment vous protégez ces journalistes?
Alors il y a effectivement de toute façon des consignes de prudence donc à avoir, qui sont répétées aux différentes équipes, et puis effectivement en fonction des lieux et des dispositifs on peut faire appel aussi parfois à des gardes du corps pour sécuriser effectivement certains dispositifs, en sachant que ce qui nous guide, mais ça vous surprendra pas parce que j'imagine que vous faites la même chose aussi chez vous, c'est quel est l'intérêt éditorial d'être à tel endroit et quelles sont les conditions de sécurité pour qu'on puisse travailler tout à fait normalement.
C'est quand même assez inédit quand même que les journalistes soient pris pour cible à ce point-là.
Oui, alors c'est inédit effectivement, comme vous le dites, à ce point-là, parce que c'est vrai oui. que les journalistes.
Oui, il y a souvent, il y a bon, eu, parfois c'est bon, difficile dans les manifs.
Moi, j'ai couvert quelques conflits, quelques conflits sociaux dans ma carrière où c'était parfois assez chaud parce que on s'en prend assez facilement aux médias, on s'en prend aussi aux journalistes parce que c'est facile. Et puis nous, on est intermédiaires, nous on est vecteurs à la fois d'information, donc on est ou suspecté d'être pro-gouvernemental ou pro-gilets jaunes là. Donc c'est pas ça. Mais c'est vrai que là, il y a une tension et une violence dans les rapports qui vous surprend quand même.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça vient aussi même de l'attitude de certains politiques? Moi, j'étais frappé par, à nouveau, Jean-Luc Mélenchon qui a fait quasiment une agression vis-à-vis d'une question de Thomas Soto. Donc là, déjà, les journalistes sont mis en cause sur les plateaux et devant donc tous les téléspectateurs. Et j'ai trouvé que Thomas Soto avait répondu de façon un peu, comment dire, soft. Est-ce que finalement, il n'y a pas un discours à faire passer, y compris vis-à-vis des politiques, pour que le journaliste puisse exercer son métier?
Et certains politiques l'ont dit d'ailleurs très 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 ouvertement. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même, dans une intervention la veille depuis Marseille, était plutôt sur ce ton-là. Donc il serait dit parfois en fonction ou du débat ou bien du média. Quoi, je veux dire, voilà. Mais
ou de la question.
Mais oui, on a besoin aussi. Mais ça a été fait aussi par certains. Ça a été fait aussi par Castaner. Ça a été fait par le Premier ministre. Oui, on a besoin aussi du soutien. Des politiques, donc quels qu'ils soient, parce que les journalistes ne font que leur travail,
Allez, une petite question média, parce qu'on est quand même dans une émission média. Pourquoi Laurent Delahousse n'a pas présenté cette édition spéciale? Ça aurait été la logique qui poursuive le journal.
Oui, ça aurait pu, simplement, vous savez, le journal de 20h était un journal très 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 lourd à préparer parce que l'actualité était très lourde, et puis, pour tout vous dire, l'équipe de l'émission politique travaillait déjà depuis plusieurs jours sur une option de prime pour à la place d'une émission politique, et on l'a déclenchée un petit peu plus vite.
Ah, voilà. Vous avez décidé de l'avancer dans la journée de dimanche, en fait.
Oui, c'est ça. Ah, c'est ça.
Donc, pour être dans l'actualité.
Pour être dans l'actualité. Malice, si vous voyez ce que je veux dire.
Et est-ce qu'il y aura d'autres?
Oui, c'est ça. Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres?
Comme envoyé spécial de jeudi?
Pas forcément, enfin en tout cas pas sur la même forme, mais en tout cas on essaye aussi de préparer une émission aussi de proximité sur le terrain, dans les territoires, avec France 3 là dans les tout prochains jours.
Très bien.
Tout prochain jour, c'est demain.
Ça peut être demain, par exemple. D'accord.
Merci beaucoup, Yannick Letranchant. Merci d'avoir été avec nous, directeur exécutif de l'information de France Télévisions. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans quelques instants. On continue cette édition spéciale sur Sud Radio. On va être avec Christine Bouillot, notre correspondante en province. On va vous lire les unes de la presse qui sont pratiquement toutes consacrées, évidemment, à ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas que Paris. Il y a eu aussi beaucoup de mobilisations en province. Et puis Brigitte Hadès, correspondante chef du bureau britannique de la revue Politique Internationale. On va parler avec elle des réactions à l'étranger. À tout de suite.
Sud Radio, édition spéciale. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio entre 10h et midi, édition spéciale ce matin sur Sud Radio consacrée aux gilets jaunes. Entre 10h et 11h, on parle du traitement des médias, de la façon dont vous êtes, vous, absolument addict. Enfin, vous êtes scotché devant votre écran. 0826 300 300 si vous voulez réagir. On a Christine Bouillot en ligne avec nous. Bonjour. Christine,
bonjour, Valérie,
vous êtes la correspondante de Sud Radio à Toulouse. Quelques-unes de la presse de ce matin. La Charente libre, les gilets jaunes ne lâchent pas l'affaire. La Dordogne libre, les courageux. Ça, c'était autre chose. On mouillait le maillot. C'est assez marrant de voir, d'ailleurs, parce que je suis en train de regarder toutes les unes de la presse, de voir que certains, par exemple, la Voix du Nord, l'urgence est là avec la photo d'Emmanuel Macron, et Nord Éclair, les Miss s'offrent un défilé. Mais globalement, la plupart, l'Éclair de Normandie qui titre également sur les gilets jaunes, La République, les gilets jaunes, où va le mouvement? La Ville pense ses plaies, c'est l'Ardennais. La députée et le gilet jaune, c'est l'Union. L'incendie couvre toujours, enfin, la plupart Sud-Ouest, des Sud-Ouest également. Une consacrée.
Comment sortir de cette crise? Donc,
et maintenant, la dépêche du midi. Vous, en province, comment est-ce que ce mouvement a été ce week-end compris, appréhendé?
Alors, il y a eu deux phases. Il y a eu, comme à Paris, je dirais, il y a eu le fameux acte 3 avec les débuts de manifestation qui étaient relativement calmes. Il y a eu des sortes de bascules un peu partout, je rappelle, sur les coups de 16 heures, notamment à Toulouse. Il y a eu deux foyers assez importants à Toulouse. Sur les coups de 16 heures, les manifestants qui veulent remonter en direction de la gare Matabiau, ils sont là, à ce moment-là, empêchés de remonter vers cet axe stratégique en centre-ville, tout simplement. C'est pas... c'était pas ce qui était prévu, et donc un début là de d'échauffourée qui s'entame entre forces de l'ordre et manifestants, et ça va dégénérer pendant plus de 3 heures en centre-ville de Toulouse, des scènes qu'on n'avait pas vues même pendant les manifestations de la loi travail, avec le même scénario qu'à Paris. On fait des barricades, on utilise le mobilier urbain, tout ce qui traîne de chantier du centre-ville pour faire des montagnes de barricades, on met le feu aux poubelles, et puis ensuite les scènes de pillage et de cassage. Donc ça, c'est véritablement important. Et au bilan, quand même, faut le souligner, il y a eu 57 personnes blessées, dont 48 policiers sur Toulouse, et des policiers qui, comme à Paris, ont dénoncé le fait qu'il y avait eu une impréparation, en tout cas une mauvaise évaluation des risques, des policiers qui disent qu'ils n'avaient pas non plus de stock suffisant aux grenades lacrymogènes pour pouvoir faire face aux manifestants qui sont devenus de plus en plus violents. Et puis l'autre image forte, je dirais aussi, de ce week-end, qui a fait le tour aussi des réseaux sociaux, c'est l'incendie de ce péage de Narbonne sur l'autoroute Anas.
Avec cette photo en feu qui a été balancée avec une sorte d'engin.
Absolument un engin de chantier qui est balancé, des bâtiments de Vinci Autoroute qui sont littéralement incendiés, tous les véhicules, et y compris le bâtiment où se trouvent les bureaux du peloton de gendarmerie de l'autoroute. C'est les gendarmes qui sont donc là visés directement, des dégâts qui sont considérables, et des émeutiers qui sont sur la zone, seuls, totalement livrés à eux-mêmes, et qui vont tout saccager pendant plusieurs heures avant que on puisse intervenir. Donc c'est une scène qui a profondément choqué, perturbé. Autre acte de violence aussi qui est un symbole, c'est le préfet du Tarn qui lui aussi a été directement touché par un débris de verre lors d'une manifestation devant la préfecture. Et donc tous ces gestes-là, la préfecture de Tarbes aussi qui a été visée, Montauban où il y a eu des violences. Alors ailleurs, ça s'est extrêmement bien passé dans le calme évidemment, mais même si on retient ces actes de violence, moi je dirais qu'on a basculé dans autre chose là, et que c'est un défi sans doute pour les autorités, parce que quelle réponse on donne à tout ça? Il y a des interpellations, il y a des comparutions immédiates, c'est sûr, mais il y a une espèce de face-à-face qui est observée. Alors ce matin, sur l'Occitanie,
il y a des opérations, je veux juste savoir, vous sentez la population mobilisée encore derrière les Gilets jaunes? On voit encore une fois, pour reprendre les unes de la presse qui sont consacrées à ce mouvement, c'est au cœur aujourd'hui des préoccupations des Français?
C'est au cœur des préoccupations des Français, et tout le monde se demande pourquoi et quelle réponse pourrait donner Emmanuel Macron. Mais pourquoi il n'y a pas eu plus de réponses que ça par rapport aux événements de samedi, notamment du côté des entreprises qui sont dans les zones touchées par les ronds-points? On nous dit, pourquoi hier soir, par exemple, il n'y a pas une déclaration solennelle d'Emmanuel Macron pour dire on va passer à autre chose. Voilà. Et les habitants, alors, comprennent les revendications, mais j'ajouterais, pour côtoyer les Gilets jaunes, c'est que les revendications, la liste s'allonge.
Oui, c'est ça.
Et je ne vois pas comment, si on fait une annonce ou deux aujourd'hui ou demain, elles vont pouvoir calmer tout le monde et faire en sorte qu'on s'arrête.
On va en reparler tout à l'heure. Merci Christine Bouillot d'avoir été avec nous, correspondante de Sud Radio à Toulouse. On va parler de l'étranger, de la presse étrangère avec Brigitte Hadès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du bureau britannique de la revue Politique Internationale et donc vous êtes, vous, une observatrice évidemment de ces mouvements. Vous rapportez à l'étranger. Je veux juste citer quelques titres de la presse étrangère. Escalade de la violence à Paris dans Die Welt. La manifestation des Gilets jaunes sème le chaos à Paris. C'est El País. Gilets jaunes, l'heure de la violence. Paris brûle entre agression et pillage, c'est le Corriere della Sera. L'une des manifestations antigouvernementales les plus violentes à frapper Paris depuis des décennies, c'est le Wall Street Journal. Et puis on retrouve les mots de gilet jaune, yellow vest en anglais, gelb vesten en allemand, gilet gialli en italien, chalecos amarillos en espagnol. Bref, c'était à la une de pratiquement tous les sites étrangers. Quelle réaction à l'étranger, Brigitte Hadès?
Écoutez, en fait, les gens sont surpris car ils connaissaient le caractère des Français
plus promptes qu'eux à se mettre en colère, disons, et à entamer des grèves. Mais ils sont surpris par les revendications qui, pour eux, qui sont pragmatiques, pour la plupart, surtout les anglo-saxons, ne sont ni claires, ni pratiques, ni faisables. Ils leur ont envié les élections, parce qu'eux, ils ont souvent des gens, des présidents qui ne leur plaisent pas, donc ce Theresa May, Monsieur Trump, et là, ils leur ont envié ce président neuf, qui étaient pleins d'emprunt, etc., et qui allaient les sortir de leur, de faire des réformes. Et là, dans la première difficulté, ils s'arrêtent, ils veulent revenir en arrière. Pour eux, c'est un peu une certaine irresponsabilité. En Angleterre, par exemple, ils sont surpris parce que les Britanniques ont aussi à se plaindre du prix de l'essence et du gasoil. Oui. Le plein d'un litre d'une voiture de 55 litres a augmenté dans les derniers 6 mois de 7 euros en Angleterre. Et le litre de diesel coûte 7 centimes d'euros de plus qu'en France. Ils sont aussi, ils ont aussi beaucoup moins bonne couverture sociale que les Français. Il n'y a pas de salaire minimum. Ils sont plus résignés en Angleterre, en Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu des années noires jusqu'en 79, souvenons-nous, et ils savent que ce n'est pas tenable. Du coup, ils ont accepté des réformes qui, au début, les ont mécontentés, mais finalement, ont fini par les placer jusqu'au Brexit, jusqu'à récemment, au premier rang des pays européens, alors qu'ils étaient les derniers.
On entend, mais donc il y a une réaction des Britanniques un petit peu interloquée de voir la réaction des Français, Rémi.
C'est qu'en fait les Britanniques et les médias peut-être anglais ne comprennent pas les violences et le débordement qu'on constate en France.
Oui, parce qu'en fait en Angleterre, en Grande-Bretagne, il y a eu des débordements, ça a existé, mais ils ont été punis très sévèrement, beaucoup plus que nous. Par exemple, en août 2011, il y a eu des contestations contre le gouvernement Cameron et le pays avait été impacté. Rien qu'à Londres, je vous signale qu'il y avait eu quand même 109 feux qui avaient été éteints par les pompiers et qui menaçaient la vie des habitants. Il y en avait beaucoup plus, mais il n'en avait été que 109. Il y a eu 1600 arrestations dans les 3 jours en août où il y a eu des contestations et la moitié ont été jugées, beaucoup emprisonnées. Certains pour plus de 6 mois, parce que en fait, il y avait eu la même chose, les pillages, les casseurs, il y avait eu la même chose qu'ici. Je connais un garçon qui avait écopé de 4 mois ferme parce qu'il avait simplement grimpé sur une statue à Whitehall, alors que nous, on a tagué et on est monté on a détruit une partie de l'Arc de Triomphe. Oui. Donc, qui est quand même le Whitehall, c'est l'équivalent symbolique de l'Arc de Triomphe.
Alors, la France est trop laxiste, d'après vous?
Moi, je ne suis pas partie prenante. Je n'ai pas l'intention de donner des conseils au gouvernement.
Il y a des différences.
Si les casseurs étaient plus punis, plus sévèrement, il y aurait peut-être quand même une certaine. Il y a une certaine impunité en France qui finalement ne va pas aller dans le bon sens pour aucun de nous, pour aucun des citoyens français, aussi bien les gilets jaunes qui finalement voient leur mouvement être dégradé par la violence finalement. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu triste à voir pour l'étranger. Alors bien sûr, évidemment, en voyant tout ce désordre, certains regrettaient de sortir de l'Union européenne, surtout les Anglais évidemment, finissent par s'en féliciter.
Merci beaucoup Brigitte Adès d'être intervenue ce matin sur Sud Radio. Voilà, donc édition spéciale qui va se poursuivre entre 11h et midi. Un mot quand même de ce qu'il y a à la télévision ce soir, Rémi.
Ben oui, sauf le changement de programme de dernière minute. On a une famille formidable, ce sont les derniers épisodes de la série avec Bernard Lecoq et Annie Dupéret. Les Rivières Pourpres, la série policière de France 2, assez punchy.
Et qui a bien marché la semaine dernière.
Qui a bien marché. L'aventure continue avec...
Céline Cousteau en Patagonie, la petite fille de Cousteau qui est partie en Patagonie, qui prend le relais de son grand-père.
Sur Canal+, il y a la série médicale Hippocrate, assez forte. Et puis Xavier Dupont de Ligonnès, un docu-fiction sur M6, sur l'affaire. C'est un traitement assez original, parfois discuté de cette affaire.
Et discutable. Moi, je n'ai pas aimé du tout, ça m'a mise très mal à l'aise. On a vu les images avant, je trouve que c'est ce parti pris.
On va voir, effectivement.
C'est une affaire qui est toujours en cours, il n'y a pas d'issue, donc d'émettre des hypothèses m'a profondément dérangée. Je ne vous le conseille pas.
Voilà. On verra quelles sont les audiences demain.
Et puis trois blockbusters, un seul au monde, Iron Man 3 et Jurassic Park sur respectivement C8, W9 et TMC.
Il y a de la concurrence. Merci.
Ben on parie pas.
Les rivières pourpres. Moi je dis les rivières pourpres.
Et M6 en deux peut-être.
Oui,
quand même.
Je pense qu'M6 va fonctionner quand même parce qu'il y a toujours un intérêt. Mais
j'ai hésité. Je suis pas sûr.
Les rivières pourpres et puis allez, une famille formidable. Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant pour la suite donc de cette édition spéciale consacrée aux gilets jaunes avec des violences qui sont en train de se produire à Aubervilliers et à Pantin. Visiblement, les manifs, voilà, des scènes de violence dans ces deux villes. On va y revenir à partir de 11h. À tout de suite.